Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Suite de cette émission spéciale consacrée au 25e anniversaire du génocide des Tutsis, le Rwanda commémore depuis hier ce génocide. 100 jours pour se recueillir, pour commémorer. On en parle avec André Guichawa, historien spécialiste du Rwanda, et Sonia Rollet, journaliste au service Afrique de RFI. Nous prenons le temps ce matin de répondre à toutes vos questions, et elles sont nombreuses. On va essayer, André Guichawa et Sonia Rollet, de répondre au plus grand nombre d'auditeurs dans les 20 minutes qui nous restent. Question Facebook. Songalo nous demande pourquoi la communauté internationale n'a-t-elle pas réagi à l'époque, et plus particulièrement l'ONU. L'ONU, effectivement, qui était présente en février 1994. Il y avait des casques bleus, André Guichawa.
Oui, si on se limite à l'événement essentiel, c'est-à-dire l'attentat. Il faut savoir que dans les 2-3 mois qui ont précédé, la tension a été extrême pour la mise en place d'un gouvernement de transition. Les Nations Unies ont joué un rôle très important dans ce processus, et les forces politiques s'y sont engagées avec une détermination, voire une violence, avec des assassinats politiques, des disparitions, enfin bon, etc. Voilà. Donc, quand arrive l'attentat, il est clair que tout le monde savait que le niveau des enjeux a été placé très haut, et que ceux qui en ont pris l'initiative ne pouvaient ignorer les suites. Dès le lendemain, Bagosora, le chef, enfin bon, un des leaders des groupes extrémistes de l'armée, couvre l'enlèvement d'une dizaine de casques bleus qui sont assassinés. Voilà. Ça a été un événement majeur et le signe de la débandade. Quand on constate la détermination que les deux ennemis ont mis en œuvre immédiatement, l'enjeu c'était bien d'en finir avec cette guerre. Ouais. Et ils sont partis.
C'est ça qui est extraordinaire et incroyable, Sonia Rollet, c'est que le général Dallaire, le général canadien qui est à la tête des casques bleus, lance à plusieurs reprises des signaux d'alerte au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il n'y a pas de réaction. Lui, il demande davantage de casques bleus, plus de casques bleus. Et ce que font les Nations Unies, c'est justement de réduire le nombre de ces casques bleus. Au final, je crois qu'ils ne sont plus qu'une centaine ou 200 maximum.
Et en fait, ce qui est marquant, et ce qui est toujours marquant en fait sur ces périodes, c'est à quel point en fait le Conseil de sécurité est divisé. Donc il y en avait certains qui soutenaient le président Habyarimana, d'autres qui soutenaient le FPR dans le Conseil de sécurité. C'est toujours le problème. Et puis c'est pas une période où en fait où les Nations Unies ont très bien réagi au massacre ou aux situations. Enfin, il y a plein de situations dans le monde à ce moment-là où en fait les Nations Unies sont complètement incapables de réagir. Et de toute façon, face à ces grands crimes de masse, en général, si on regarde l'histoire des Nations Unies, c'est très compliqué ou très difficile quand il y a vraiment ces volontés qui sont affichées de commettre des violences de masse. On voit très rarement les Nations Unies être capables d'y mettre un terme. On le voit encore aujourd'hui, il y a des massacres qui se passent à côté de bases de l'ONU. Il y a toujours en fait un côté politique, une question politique qui se pose à partir du moment où il y a un grand crime de masse qui est en train d'être commis.
André Guichawa.
Oui, mais en même temps, on a assisté à des scènes inouïes, enfin personnellement, de casques bleus à des carrefours qui ne bougeaient pas devant les massacres qui étaient commis sur les barrières.
Leur mandat était trop faible, disait-on à l'époque.
Assurément, mais ce sont les conditions vécues. Ensuite, l'armée française est intervenue, l'armée belge est intervenue. Personne ne pouvait comprendre sur place qu'il n'y aurait pas d'intervention pour faire cesser les massacres. Et écoutez, je ne suis pas militaire, mais on ne peut pas imaginer que 2000 militaires français ou X belges plus etc. Ne soient en mesure d'assurer au moins des éléments de sécurisation, notamment dans la capitale.
Vous parliez des militaires français, justement, Abdoul Aziz. Vous avez une question concernant l'opération turquoise. Nous vous écoutons.
Ok. Donc, en ce qui concerne l'opération turquoise, j'aimerais savoir pourquoi cette opération-là, envoyée par la France au Rwanda en juin 1994, est accusée d'inaction voire de complicité avec les génocidaires. Alors, quels sont les éléments dont on dispose pour appuyer cette idée?
Alors, c'est le FPR hein, qui accuse Paris de vouloir sauver le régime Hutu et les responsables du génocide en déployant avec le feu vert des Nations Unies l'opération Turquoise qui, au début, en tout cas officiellement sur le papier, elle est présentée comme une opération humanitaire, André Guichaoua.
C'est une opération, soyons clairs, politiquement motivée. Personne n'avait l'intention d'y aller, la France s'y avait proposé et elle envisageait de le faire sérieusement. Elle était même déjà prépositionnée dès le début des négociations et avait même fait des premières incursions dans le nord du pays, etc. Bon, quand la décision finale a classé la mission dans la catégorie strictement humanitaire, la France s'y est conformée. Et là, je voudrais rappeler un élément très important sur le réalisme des combattants. Le hasard a voulu que je sois à Bruxelles, c'était les 21 et 22 juillet, juin, 1994. Pendant que j'y étais pour sur le rapatriement de personnalités au Rwanda, s'est débattu le rendez-vous avec le ministre français Alain Juppé. Les membres du FPR installés à Bruxelles s'y sont rendus, et notamment Jacques Biot-Zagara. Lors de son retour, soyons clairs, ça a été la fête. Parce que les négociations ont débouché, je dirais, sur une double satisfaction. La première satisfaction, la France, excusez-moi, sa priorité, c'était de sauver les équilibres de la région. Et en l'occurrence, c'était de sauver le régime burundais, qui n'aurait jamais pu supporter l'arrivée d'un million ou de 2 millions de déplacés. Hein ? Ça, c'est, je pense, le point essentiel. Le deuxième point, le FPR ne pouvait pas assumer la prise en charge d'1 million à 2 millions de personnes à la frontière. Son objectif était un objectif militaire, c'était de monter le plus vite possible au nord du pays pour prendre le contrôle de la région présidentielle et empêcher l'installation d'une guérilla durable. Et dès cette date-là, on l'a vu dès le lendemain, le FPR a cessé son avancée. Bien entendu, hein, la France a fait la prise en charge, entre guillemets, humanitaire, et le FPR est monté sur le nord. En fait, ouest du pays.
Sans rentrer dans trop de détails, pour dire simplement les choses, cette opération officiellement humanitaire a de facto bloqué la progression des hommes de Paul Kagame.
Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre en fait avec l'opération turquoise, c'est d'abord qu'on l'a présentée comme neutre ou que la France était neutre. Et c'est toujours un problème avec les Nations Unies. Et sur ce type d'opération, quand d'un seul coup c'est politique et que plus personne veut y aller, c'est qu'en fait c'est le pays qui va être du côté d'un belligérant. Et en l'occurrence, la France était depuis très longtemps, hein, enfin, sur toute la guerre, a été du côté du gouvernement Habyarimana et donc de cette armée dont une partie après a été l'origine du génocide ou a vraiment été moteur de ce génocide-là. Et donc c'est vrai que dès le départ, le ver était dans le fruit. On se retrouve avec le FPR qui évidemment voit son belligérant, parce qu'on peut pas le voir d'une autre manière de son point de vue, avancer, et lui, et qu'il y a effectivement quand même des discussions qui s'amorcent entre les deux pour savoir justement comment gérer et puis éviter la confrontation. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation qui est un peu absurde sur le papier, de voir un belligérant se présenter comme neutre et ensuite dire « mais là j'étais dans ma mission neutre et puis à côté j'étais pas dans ma mission neutre ». Le problème dans tout ça, c'est toujours pareil, c'est que en fait dans le rôle de la France, la France donc s'est mise du côté de ce gouvernement, a donc été en lien avec l'armée, c'est ce qu'elle fait toujours quand elle décide de se mettre d'un côté d'un État, et puis elle a mis tous ses rouages de sa politique ou de sa diplomatie pour s'assurer que l'objectif qu'elle avait dans la région serait respecté.
Autre question posée par Hervé à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aussi à tous vos invités à la RFI.
Merci, nous vous écoutons.
Oui, ma question est de savoir pourquoi la France refuse de déclassifier et de donner accès aux archives sur le génocide du Rwanda.
Alors, il se trouve que le président Macron s'est engagé à ouvrir justement les archives sur le rôle de la France au Rwanda. Son prédécesseur, François Hollande, avait lui aussi annoncé la déclassification des archives. Vous y croyez, André Guichaoua ? Cette fois, c'est la bonne. Toutes les archives seront déclassifiées concernant le rôle de la France en 1994 ?
Alors, par rapport à la mission parlementaire de 1997-98, les pouvoirs qui incombent à la nouvelle commission sont finalement beaucoup plus larges. Et en plus, elle est prise en charge par des personnalités spécialistes des archives et connues pour leur indépendance et leur compétence.
Vous faites référence à la commission,
membres de la commission
lancée il y a 48
il
heures.
Il y a 48 heures.
Par le président Emmanuel Macron. Spécialiste, certes, des génocides, mais aucun spécialiste du génocide des Tutsis.
C'est peut-être une condition sine qua non pour que le sujet soit abordé dans un minimum de sérénité et de rigueur.
Sonia Rollet ?
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que sur cette histoire, nécessairement, étant donné que la France était un côté et le Rwanda un autre, on se retrouve au sein, en fait, de tout ce débat France-Rwanda sur des positions qui sont parfois des positions qui sont très politiques. Avec des personnalités qui vont prendre des politiques, alors qu'en fait le problème est technique, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'a fait la France, quelle a été cette politique de coopération, jusqu'où c'est allé, et est-ce qu'on a dépassé les cadres d'une coopération normale, et dans quelle mesure c'était normal. Et c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui montrent qu'il y avait une coopération avec un régime, que la France soit n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer, soit a un certain type de politique étrangère qui implique un soutien à des régimes parfois autoritaires, avec des armées qui commettent parfois des violations massives des droits de l'homme, et que finalement, ça fait pas partie forcément des critères que Paris met toujours en avant pour choisir en fait sa politique.
André Guichaoua. Alors,
pour répondre très précisément à la question,
archives,
pourquoi elles n'ont pas été déclassifiées ? Parce qu'elles ne peuvent pas l'être. Elles sont couvertes par la loi, protégées, et les modalités qui ont été élaborées relèvent d'une décision présidentielle qui confie à 9 personnes la possibilité d'y accéder avec l'autorisation des autorités en charge, les affaires étrangères, le ministère de la Défense, etc., mais avec un accès global, mais confidentiel. Je dis bien.
Oui.
Mais confidentiel.
Mais confidentiel.
C'est-à-dire que ça leur est personnel et ils n'ont pas à diffuser ces éléments. Ce n'est donc pas un accès public à ces données. Mais, et c'est ça le plus important, ce sont ces personnalités qui vont les trier, qui vont les juger pertinentes et qui rendront publics tous les documents utilisés dans la publication des annexes.
Ouais, je précise que Vincent Duclart était l'invité ce matin d'Arnaud Pontus sur RFI. Entretien à réécouter évidemment sur notre site rfi.fr. Une autre question, bonjour Tim.
Bonjour Juan Gomez, bonjour.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup. Alors, ma préoccupation est la suivante. En 1994, il y a eu une multitude de Rwandais Hutus qui ont traversé la frontière pour se réfugier à l'est du Congo. Alors, depuis tous ces temps, quelles mesures de rapatriement le gouvernement rwandais a mises en place ?
Ah, qui veut répondre ? André Guichaoua, que sont devenus ces dizaines de milliers de Hutus qui ont effectivement quitté le Rwanda pour se réfugier, à l'époque c'était le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo ?
Alors, les dizaines de milliers étaient en fait quasiment 2 millions, pendant la période la plus importante, c'est-à-dire juste après l'arrivée au pouvoir du FPR. Bon, pendant un peu plus d'un an, il y a eu des négociations entre le gouvernement qui avait été mis en place et eux pour débattre du retour de ceux qui le souhaitaient, en sachant très bien que parmi eux, dans les camps, il y avait des partisans de l'ancien régime et notamment des militaires qui essayaient de reconstituer leur armée.
Il y avait, pour dire clairement les choses, des génocidaires.
Il y avait massivement
parmi ces réfugiés
des génocidaires, mais et notamment les militaires et les troupes qui allaient avec et pour une part les équipements. Bon, de là à dire que toute la population qui était dans les camps était génocidaire, ça c'est déjà beaucoup plus compliqué. Maintenant, donc les autorités, après la démission de la plupart des personnalités qui étaient partisans d'une politique de négociation, les autorités rwandaises ont décidé en 96 d'en finir, et ça a été l'intervention militaire qui a causé, c'est-à-dire le rapatriement forcé, donc à peu près 200 à 300 000 seraient rentrés de force, et les autres auraient fui. Mais sur ces éléments-là, on n'a pas vraiment de chiffres.
Sonia Rollet.
Alors, voilà, il y a eu cette entrée au Congo, en fait, de l'armée rwandaise, et c'est à partir de ce moment-là que sur le Congo, on entre dans une période qui sont couvertes, par exemple, par le rapport mapping fait par l'ONU sur les crimes commis au Congo, et notamment entre 96 et 98, il y a eu un certain nombre de crimes commis, justement, contre ces populations Hutus, donc, et notamment les populations civiles, et il y a eu des séries de massacres qui ont été commis, qui vont durer, jusque en 98 ou encore en avoir. Il faut savoir qu'en fait le Rwanda à ce moment-là a dit c'est pour des raisons de sécurité qu'on rentre au Congo et qu'on mène cette guerre et qu'ensuite jusqu'en 98 quand l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se battent dans les rues à Kisangani, ils disent encore que c'est pour la protection et la sécurité en fait du Rwanda. Donc c'est pour ça que les gens au bout d'un moment disent qu'il y avait une instrumentalisation en fait de l'idée de la poursuite des génocidaires pour une invasion ou une occupation du Congo. Mais c'est vrai que, en tout cas, ces crimes qui ont été commis là, eux, n'ont jamais été jugés, que ça pèse lourdement quand même sur l'histoire, en fait, entre les communautés au Rwanda, puisque c'est des crimes dont on ne peut pas parler. C'est vrai que l'ONU a fait un travail, mais sans jamais désigner les responsables, et qu'elle a fait un travail à travers le Mapping Report. Mais par contre, aujourd'hui, on n'en parle pas du tout de ces crimes-là.
Ouais. En deux mots, André Guichard.
Et pourtant, il reste encore aujourd'hui 200 000 Rwandais au Congo, dont les conditions de rapatriement sont durement négociées et qui vont vraisemblablement se traduire par du rapatriement forcé.
Il nous reste 3 minutes. Une dernière question et vraiment toutes nos excuses pour les nombreux auditeurs qui espéraient passer à l'antenne ce matin. Mais voilà, c'est comme ça, on prend le temps de vous répondre et c'est vrai que chaque question mériterait une heure d'émission. Évariste, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Nous vous écoutons.
Bonjour,
vous êtes au Nigeria, on vous écoute.
Oui, évidemment. En fait, j'ai deux préoccupations. Ma première question est à deux volets.
Oui, allez-y.
Ouais. Quel est le bilan de jugement rendu par le tribunal pénal international pour le Rwanda? Et pourquoi a-t-il arrêté ses travaux en 2015?
Alors, grande machine judiciaire que celle du tribunal pénal international pour le Rwanda. Cette machine aura duré 20 ans. Pour quel bilan, André Guichawa?
Bon, je crois que on va se limiter à des choses très précises.
Oui.
93 procédures ont abouti. Elles concernent des personnalités majeures de l'armée, de la sphère politique, des médias, etc. Cela répond à l'objectif qui lui avait été fixé, c'est-à-dire de s'occuper des éléments que l'on considère comme étant les planificateurs ou les organisateurs ou les acteurs majeurs
du
massacre et du génocide. Bon, on ne rentre pas dans les débats de ceux qui n'y sont pas, même si on peut penser que ceux qui ont réussi à y échapper sont toujours saufs, et certains ont fui. Mais l'élément, à mon avis, le plus important, il tient aussi à la deuxième question qui a été posée. Le TPIR n'a pas achevé son mandat. Mais à la demande, avec l'acquiescement, entre guillemets, je pense, des procureurs, et avec l'acquiescement du Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu poursuivre et juger les auteurs et des délits et des crimes du camp vainqueur qui avait été pourtant formellement identifié.
Effectivement, Sonia Rollet, ça c'est un point qui a souvent été pointé du doigt, c'est qu'à aucun moment le TPIR n'a ouvert de dossier contre la famille Abiarimana, contre les responsables du génocide. Contre ceux qui sont arrivés au pouvoir, par exemple.
Voilà.
Qui, eux,
enfin,
ont commis des...
Alors, ils disent quand même qu'ils avaient 13 dossiers ou 13 cas, donc les enquêtes spéciales, on les appelait comme ça, avec des cas identifiés, ils avaient des preuves, ils avaient... quand on parle, en tout cas, avec les anciennes équipes du TPIR, il n'y avait pas tellement de problèmes sur le fond pour documenter des crimes, quand c'est par exemple des massacres dans des camps de réfugiés où il y avait des témoins, il n'y a quand même pas trop de problèmes avec ça. Mais c'est vrai que, en tout cas... Il n'y a pas eu la volonté politique de juger ces crimes. C'est un socle d'impunité qui touche aussi le Congo, parce que du coup, les crimes qui ont été commis au Congo n'ont pas pu être jugés, essentiellement parce que les alliés en fait du FPR à ce moment-là, les États-Unis et la Grande-Bretagne, s'opposent à toute poursuite.
Ouais. Merci. On arrive à la fin de cette émission et encore une fois.